comment ça fonctionne.
Dans les téléphones saisis, les enquêteurs vont d'abord découvrir des milliers de photos d'argent cash. Mais aussi des photos qui montrent un billet soit de 5, soit de 10 euros. Chaque billet va servir de code, de mot de passe tout au long de la chaîne. Du client qui veut envoyer de l'argent à celui qui doit le réceptionner.
Le mécanisme habituellement constaté, une infinité de dossiers, c'est que le collecteur, qui lui n'était pas présent pendant les négociations, doit fournir un numéro de série de billets de banque qui va servir en fait de carte d'identité. C'est-à-dire qu'au moment de rencontrer la personne qui va donner les fonds, le collecteur doit être en possession du billet et celui qui le remet l'argent doit connaître le numéro du billet à l'avance. Ce qui garantit qu'on a bien affaire aux deux parties d'une transaction qui avait été négociée au préalable.
On a trouvé 6000 photos de billets de 5 euros avec le numéro de référence. Et on a trouvé 6000 photos de cartes d'identité du monde entier. Donc ce qui veut dire que techniquement, on a déjà rien que par là 12 000 opérations minimum, rien qu'avec ces éléments-là.
Voilà comment cette banque fonctionnait depuis Skarbek. Un bureau clandestin qui faisait partie, vous allez le voir, d'un réseau d'une ampleur jamais imaginée. Via son téléphone, Abou Adan était relié à plusieurs centaines d'autres bureaux clandestins comme le sien dans le monde entier. Le réseau bruxellois était une véritable plaque tournante. Les enquêteurs vont le comprendre en ouvrant l'application WhatsApp du portable d'Abou Adan.
Cette galaxie qui s'ouvre à nous, c'est par exemple un groupe WhatsApp qui applique 280 interlocuteurs. Donc il faut imaginer que le monde est une table. Et sur cette table, dans ce système Awala, il y a 281 joueurs dans le monde entier. Dans un autre groupe WhatsApp, qu'ils avaient intitulé d'ailleurs les commerçants de la Grande Europe, c'est 532 participants qui sont autour de cette table mondiale.
532 Awaladar, et parmi eux, Abou Adan. Voilà le type de message qu'il rédigeait et que nous avons pu consulter dans ce dossier judiciaire.
Il nous faut 250 000 euros à Malte. Il nous faut 50 000 euros à Paris. Il nous faut 50 000 euros à Amsterdam. Il nous faut 20 000 livres à Londres. Il nous faut 250 000 rials en Arabie Saoudite.
À un rythme soutenu, les demandes ou les propositions de transactions arrivaient du monde entier sur ce groupe WhatsApp. Un style direct, télégraphique, entre des professionnels du transfert d'argent clandestin qui se répondaient presque instantanément.
J'ai 120 000 dollars à Sao Paulo, je les veux à Istanbul.
Vas-y, j'accepte. Il nous faut 100 000 dollars au Caire.
Vas-y, j'accepte.
Au total, les enquêteurs découvriront plus de 82 000 messages comme cela dans un groupe WhatsApp, plus de 111 000 dans un autre. Des centaines de millions d'euros ont ainsi circulé sur quelques mois à travers ce réseau mondial. Sur chaque transaction, les Awaladar prenaient entre 1 et 7% de commission.
Ici en Belgique, ils ne vivaient pas du tout comme des banquiers, sans tomber dans le stéréotype. Mais c'est vrai qu'ils vivaient assez chichement d'allocations sociales, pas de grosses voitures, pas de grosses montres, pas de gros frais, pas de train de vie, t'as pas l'œil. La simplicité et la discrétion la plus totale, c'était ça le mot d'ordre.
Vous l'aurez compris, le réseau de Bruxelles n'est qu'une toute petite partie d'une structure tentaculaire dont on ne connaîtra jamais la réelle étendue.
On n'a pas pu tout traiter. J'avais posé la question à un moment donné aux enquêteurs pour avoir un peu une idée si on continue à vouloir tout exploiter. Et la réponse combien de temps ça prendrait? Et la réponse qui m'a été donnée, c'est des années. Au rythme qui était le nôtre à ce moment-là, des années. Alors ça n'aurait évidemment rien changé puisque Notre objectif, c'est de pouvoir quand même amener un dossier complet, ou en tout cas suffisamment complet, au juge du fond pour qu'il puisse trancher.
En novembre 2024, le chef du réseau, Abou Adan, son numéro 2, Abou Ahmad, et quatre autres prévenus seront reconnus coupables, à des degrés divers, d'infraction à la législation bancaire, d'association de malfaiteurs ou de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Ils seront condamnés à des peines allant de 200 heures de travail à 8 ans de prison ferme. Mais ni l'enquête, ni le procès n'auront permis d'identifier la plupart des clients qui ont fait appel à leur service. Lawala génère donc des stocks impressionnants d'argent sale. Des stocks que les Awaladars vont chercher à écouler rapidement. Pour vous montrer comment ils vont s'y prendre, direction le Danemark, dernière étape de notre enquête. Au cœur de la capitale, on retrouve plusieurs confrères européens du réseau de journalistes d'investigation des médias de service public de l'UER. Eux aussi enquêtent sur Lawala.
Bien. C'est super de se voir tous. Merci d'avoir fait l'effort de venir en personne.
Notre consoeur, Pilar Requena del Río, enquête en Espagne sur une affaire judiciaire qui concerne un grand réseau Awala. Il est divisé en deux branches.
La première utilise l'Awala pour payer les voyages de Syrie au nord d'Almeria, au sud de l'Espagne. Ça, c'est le trafic d'êtres humains. Et la deuxième utilise le système Awala pour blanchir l'argent de différents groupes criminels.
17 membres de cette organisation ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir blanchi 21 millions de dollars. À l'autre bout de la table, il y a Kasper Wilsmark et Jens Langern, deux confrères danois. Eux s'intéressent au lien entre l'Awala et le blanchiment d'argent de la drogue.
La plupart du cash semble provenir des vendeurs de drogue. Ils utilisent ce service pour transférer leur argent, pour le blanchir ou pour acheter de nouvelles cargaisons de drogue.
En fait, c'est de la sous-traitance pour le crime organisé.
Et quand les trafiquants demandent aux Awaladars de blanchir de l'argent, ils ont souvent besoin d'un intermédiaire, d'un homme, par exemple, comme celui-ci.
Voici un gars qu'on aimerait vous présenter. Appelons-le Franck. Pas son vrai nom, mais on l'appelle Franck.
Franck est un professionnel du blanchiment d'argent. Son témoignage est extrêmement rare, et donc exceptionnel. Il est un personnage clé du monde criminel.
Pourquoi avez-vous choisi de rester anonyme ?
C'est parce que j'ai des liens avec cette communauté. J'ai travaillé avec la communauté Awala et j'y occupais une position relativement élevée dans la hiérarchie. Je ne souhaite donc pas me mettre en danger, ni ma famille d'ailleurs.
Franck a commencé à collaborer avec des Awaladars il y a quelques années, via une connaissance. Le premier contact a eu lieu dans un entrepôt de la périphérie de Leiden, aux Pays-Bas.
C'est un bureau assez ordinaire, typique d'une zone industrielle néerlandaise. Et quand je suis entré, il y avait là un petit homme turc assis, comme on pourrait le voir dans un film. Et il y avait de l'argent partout dans ce bureau. Je suis resté là pendant une heure et demie, et pendant ce temps, au moins 5 ou 6 coursiers sont entrés avec de l'argent, qui est ensuite compté par un autre homme, assis dans le bureau avec une machine à compter les billets. J'ai donc pu observer le fonctionnement de la salle des machines dans cette partie du processus. Il y avait probablement l'équivalent d'1 million d'euros qui sont entrés pendant cette heure et demie. Il y avait de l'argent partout, dans les placards et les tiroirs. Et quand il ouvrait quelque chose, il y avait de l'argent à l'intérieur, trié par quoi. couleur pour qu'ils sachent où ils se trouvaient. Mais tout semblait en ordre et ils semblaient maîtriser ce qu'ils faisaient.
Frank a mis en place un système qui consiste à revendre cet argent sale de la Walla à des entreprises qui ont besoin de cash.
Ça pourrait être un entrepreneur qui doit payer ses employés en espèces. Mais il a quand même besoin d'une facture pour cela. Il a donc un problème et Frank peut l'aider.
Et pour blanchir l'argent, il va utiliser une usine à fausses factures. On vous explique son fonctionnement. Supposons que l'entreprise X a besoin de 50 000 euros pour payer ses employés au noir. Frank va lui livrer cette somme en cash. Cet argent sale qui vient de la Walatar. Dans le même temps, la société de Frank va envoyer une fausse facture à cette entreprise X. Une opération commerciale fictive qui justifierait un paiement de 50 000 euros. Ce montant va être versé sur le compte en banque de la société de Frank. Sous le couvert d'une activité commerciale légale, 50 000 euros d'argent sale viennent d'être blanchis. Mais le business, vous allez le voir, ne s'arrête pas là. On va découvrir comment le blanchiment d'argent et la Walla sont très étroitement liés. Au Danemark, ces dernières années, plusieurs sociétés de fausses factures, comme celle de Frank, ont été démantelées. Et nos confrères ont découvert qu'une fois blanchi, l'argent de la Walla part dans toute l'Europe.
Regardez ça. Ce sont toutes les transactions des usines à blanchiment danoises. Ce sont des milliers de transactions que nous avons pu détecter. Et on n'a couvert qu'un petit morceau. C'est ce que nous avons pu trouver dans les affaires judiciaires danoises.
Et ce sont les transactions des usines de factures vers...
Partout en Europe. Vous pouvez voir ici le nom des entreprises. Vous trouverez des entreprises d'Allemagne, des Pays-Bas,
d'Autriche aussi,
et beaucoup d'entreprises belges.
Au moins 60 entreprises belges ont reçu de l'argent en provenance de sociétés danoises de blanchiment. Ces entreprises ont un point commun. Toutes exportent de la marchandise vers le Moyen-Orient.
Et toutes ces grandes entreprises en Europe, je ne pense pas qu'elles savent qu'elles aident les criminels à faire passer l'argent du crime organisé sans que les autorités puissent s'en saisir.
On a voulu savoir si ces entrepreneurs belges étaient au courant que leurs entreprises avaient reçu de l'argent de sociétés de blanchiment. On a d'abord contacté un concessionnaire de voitures.
Bonjour, Romane Bonnemé, journaliste pour l'émission Investigation sur la RTBF. Ouais, je me permets de vous appeler.
Je travaille sur une enquête internationale sur des entreprises de blanchiment qui ont été condamnées au Danemark.
Et le nom de votre entreprise apparaît dans une liste de paiements qui ont été effectués par certaines de ces entreprises. Est-ce que vous vous souvenez de cette transaction? C'est un paiement de 20 000 euros.
Ça ne parle pas. Nous, on travaille avec énormément de personnes en Europe et à l'exportation. On fait principalement de l'import-export.
Et donc, le fait de recevoir des paiements d'entreprises danoises, ça vous arrive régulièrement?
Je pense pas.
Puis, on a appelé un éleveur de volailles.
Oui, je suis évidemment au courant. Ça nous prend nous aussi au dépourvu. Mais je préférais ne pas m'étendre sur ce sujet tant que la procédure judiciaire est en cours.
Le dernier appel, on l'a passé à une entreprise familiale flamande qui exporte de l'acier. Entre 2021 et 2022, elle a reçu 12 versements pour un total de 100 000 euros, d'au moins 7 sociétés danoises condamnées pour blanchiment d'argent.
Vous êtes tombé dans un piège, dites-vous.
On est tombé dans un piège, oui. Tombé dans un piège. Mais rien d'illégal de ces produits. J'en suis absolument certain.
Une des entreprises danoises qui lui a versé de l'argent s'appelle Nordavn Montage. Elle est basée à Copenhague. Nous avons profité de notre présence au Danemark pour nous rendre à l'adresse de son siège social. Mais sur place, il n'y a pas d'entreprise. Et dans le quartier, personne ne la connaît.
Excusez-moi, nous cherchons une entreprise qui s'appelle Nordavn Montage.
Oui. Vous connaissez?
Non, je ne la connais pas.
Elle devrait se trouver par là, quelque part.
Norham Montage, vous la connaissez?
C'est juste un endroit où des gens habitent.
Okay.
Vous avez la bonne adresse?
Que cherchez-vous déjà?
Une entreprise qui s'appelle Nordav Montage.
C'est un immeuble d'habitation, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui ait une entreprise dans ce bâtiment.
Ça ne vous dit rien?
Non.
Thank you.
Merci alors.
Tout porte à croire qu'il s'agit d'une société écran. Une entreprise éphémère de blanchiment qui n'a d'entreprise que le nom.
On voit fréquemment des sociétés très éphémères. Ce sont fréquemment aussi des entreprises qui vont être en infraction avec à peu près toute la réglementation sur les sociétés. Ils ne vont pas déposer leur compte, il n'y a pas de bilan, il n'y a rien. Parce que voilà, leur fonction, souvent, c'est pareil, plein de contre-exemples, c'est de servir de paravent pour une durée assez faible. Donc les dirigeants sont des prête-noms qui en fait ne connaissent rien du tout sur la société. L'objet social est sans rapport avec les activités, etc.
Il est temps de vous expliquer comment une entreprise belge d'exportation d'acier apparaît dans un dossier judiciaire danois de blanchiment d'argent. Pour le comprendre, il faut suivre l'argent. Cette entreprise reçoit d'un client en Syrie une commande d'acier pour un montant de 100 000 euros. À l'époque, en raison des sanctions internationales qui frappent son pays, ce client ne peut pas faire de virement directement vers l'Europe. Il doit passer par un intermédiaire. C'est souvent le cas dans le commerce international. Le sien se trouve en Turquie. Cet intermédiaire est censé virer l'argent vers la Belgique. Mais plutôt que de le faire de manière légale, il va passer par plusieurs sociétés danoises de blanchiment d'argent. Au total, elles verseront les 100 000 euros à l'entreprise belge. 100 000 euros au départ d'origine criminelle. Selon le client syrien et d'autres sources, cet intermédiaire basé en Turquie serait un hawaladar très important.
Et quel est le lien entre l'hawaladar en Turquie, payé par cette entreprise syrienne, et Nordav Montage, la société de blanchiment danoise?
C'est l'épicentre du système Hawala. Le Hawaladar en Turquie est le seul à établir des contacts entre les entreprises du Moyen-Orient qui ont besoin d'envoyer de l'argent en Europe et les usines à blanchiment danoises qui ont besoin de faire disparaître leur argent sale.
Autrement dit, cet Hawaladar basé en Turquie remplit deux missions. Recycler l'argent sale des trafiquants dans le commerce international légal et équilibrer les entrées et les sorties d'argent dans son réseau. C'est donc un intermédiaire indispensable, présent dans la plupart des systèmes Hawala.
Le système Hawala est un système de compensation. C'est-à-dire qu'on compense des sommes déposées à un endroit avec des sommes remises à un autre endroit. Donc ça, c'est de la compensation. Et les Hawaladar vont mettre en œuvre des mécanismes variés pour faire cette compensation, encore une fois, au premier rang desquels les opérations de nature commerciale. Parce que ça permet de faire transférer... Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir faire bouger de la valeur sans faire bouger des billets de banque.
L'argent sale a en effet disparu, transformé en marchandise. Un moyen discret et très pratique de faire voyager d'énormes sommes d'argent. Un système difficilement repérable pour les autorités judiciaires.
Il n'y a pas de solution miracle, c'est la sensibilisation à tous les niveaux du système, ça veut dire également dans des contrôles fiscaux, dans des contrôles sociaux, c'est-à-dire finalement on trouve chez un boulanger ou chez un coiffeur une grosse somme de liquide, de cash, dire, tiens, c'est une somme anormale, mais potentiellement, qui dit cash, dit peut-être derrière un système Hawala. Donc c'est très difficile à détecter.
En Belgique, l'administration fiscale a ouvert en 2024 quelques 400 dossiers pour blanchiment d'argent à grande échelle. Environ un tiers d'entre eux impliquaient le système Hawala. Nous arrivons au terme de cette enquête qui nous aura permis de comprendre comment des réseaux de banquiers clandestins ont corrompu un système traditionnel basé sur la confiance. Un système qui, depuis des siècles, permet à des hommes et des femmes, sans compte en banque ou sans papier, d'apporter ou de recevoir une aide financière, même même dans les endroits les plus reculés de la planète. En le détournant, ces criminels menacent un mécanisme de solidarité dont dépendent des centaines de millions de vies.